Bilan Stock Express. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock Express spécial bande dessinée aujourd'hui. Alors quand je dis express, bah ça va être peut-être un peu plus court que d'habitude. Vous savez que Bulle en Stock, c'est le podcast qui vous permet de découvrir des univers graphiques que j'aime découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je suis Steven au micro, j'espère être avec vous pendant au moins une heure minimum. Mais bon, voilà, c'est vraiment qu'une spéciale BD aujourd'hui. Il y aura une spéciale manga et une spéciale jeu de société très bientôt parce que justement, ce sont les trois univers que nous essayons de découvrir dans Bulle en Stock. Allez, on commence tout de suite donc avec ce Bulle en Stock Express. Avec tout d'abord une réédition, L'Épervier. Alors, c'est bien sûr de Patrice Pellerin, je pense que vous connaissez. Et les six premiers tomes ressortent aux éditions Soleil. Alors, pourquoi ressortent? Parce que ils ont déjà, les premiers sont sortis aux éditions Dupuis, dans la collection Repérage à l'époque. Ensuite, un malentendu ou une mésentente entre la maison d'édition et Patrice Pellerin a fait que le contrat avait été brisé. Donc, L'Épervier avait continué chez Cadran. Et maintenant, Cadran s'est aussi séparé de Soleil. Enfin bon, il y a eu tout un pataquès un petit peu difficile. Donc, si vous ne connaissez pas L'Épervier, vous allez pouvoir le redécouvrir grâce à cette réédition des 6 tomes, en sachant que le prochain va lui aussi sortir. Donc du coup, chez Soleil, dans la même collection, dans la même hauteur, parce qu'il y avait un peu cette différence aussi de hauteur dans la collection. Moi, je sais que j'ai les premiers Éperviers aux éditions Dupuis. Et là, vous avez une différence de taille, parce que c'était vraiment une collection simple, enfin petit format, on va dire format classique, format à la Spirou. Et puis ensuite, il y a une grande version, et du coup, ça fait complètement disparate dans une collection. Bon, peu importe, diront certains, d'autres vont s'en offenser un peu plus. Mais il est vrai que les éditions originales, si vous les prenez toutes en édition originale, ça va faire une grosse différence dans votre taille de... dans votre taille de collection, dans les différents livres de la collection. Mais pour ceux qui ne connaissent pas de quoi parle L'Épervier, on est en 1741 et on suit Yann de Kermeur qui est un corsaire. Il se rend au domaine de Kermélec pour un rendez-vous et à peine arrivé, des cris l'attirent dans la chapelle où il découvre le comte mortellement blessé. C'est le comte avec qui il avait donc rendez-vous. Yann recueille ses dernières paroles, une statuette aztèque, un mystérieux portrait. Et du coup, une grande aventure qui va se lancer pour Yann, surtout qu'il est évidemment, vu qu'il est pris sur le fait, en tout cas il est auprès de ce mystérieux, enfin de ce comte, évidemment c'est lui le vrai coupable, enfin celui qu'on pense être le coupable. Et donc L'Épervier tombe dans ce traquenard et va devoir s'échapper et partir un peu à l'aventure. Et c'est vraiment très très rocambolesque, vraiment excellemment fait, superbement bien dessiné, avec beaucoup de précision historique, comme sait le faire Patrice Pellerin, que l'on connaît bien pour ça justement. Et vraiment toujours un vrai régal pour pouvoir continuer à lire L'Épervier. En tout cas, le fait que ça ressorte, ça permet aussi de les relire pour certains. Maintenant, si vous ne les avez pas, je pense que c'est une BD classique, dite classique, dirons-nous, de Corsair, et qui vraiment est très efficace et très très bien dessinée. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Vous avez des cycles qui s'enchaînent, donc du coup vous avez en plus plusieurs cycles que vous allez pouvoir suivre avec une histoire, des histoires sur plusieurs tomes à chaque fois. Donc L'Épervier de Patrice Pellerin est sorti, enfin ressort exactement aux éditions Soleil. Les tomes 1 et 6 viennent de ressortir. Dans la collection Grand Angle, une autre collection, ça s'appelle Les Justes. Les Justes, alors pour l'instant il y a deux tomes de sortie. Karl Lutz de Le Naour et Gopfer au scénario pour Le Naour et Gopfer au dessin. Et Le Naour au scénario et Galant au dessin pour Emily et Oscar Schindler. Et c'est celui-là que moi j'ai découvert. Et du coup, c'est les justes. Le sous-titre, c'est « Qui sauve une vie sauve l'humanité ». Ce sont évidemment des gens qui ont aidé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui les ont éventuellement soit cachés, soit sauvés pour certains. Dans « Emily et Oscar Schindler », évidemment, ça nous fait référence à ces deux personnages historiques. Vous aurez, je veux dire, la référence qui a été la plus fréquemment utilisée, c'est celle de Steven Spielberg, qui avait fait la liste de Schindler. Et c'est bien ce même Schindler dont on parle, à part que dans la liste de Schindler, on a beaucoup, beaucoup parlé d'Oscar Schindler, justement. Comme si c'était lui qui avait tout fait, qu'il était vraiment maître de tout ça. Et sa femme, dans le film, passait un petit peu en second plan, alors que on va découvrir à travers ce récit donc de la vraie vie de Emily et Oscar Schindler que cette femme a été vraiment dès le début avec son mari, et c'est même peut-être elle qui l'a vraiment poussé à faire ce qu'il a fait, surtout que lui c'était quand même un arriviste, et il profitait beaucoup de certaines situations. Il y avait beaucoup de choses de négatives sur lui qu'on voit beaucoup moins dans le film et que là on découvre davantage, et on va suivre on va avoir le récit exact de ce qui a pu se passer entre Emily, Oscar Schindler, et puis évidemment quand même ces personnes qui ont été sauvées, ces Juifs qui ont été sauvés grâce à cette fameuse liste qui avait été faite. Donc ça change un petit peu la vision que l'on peut en avoir de ce Oscar Schindler à travers le film de Steven Spielberg, qui dresse plutôt un portrait très positif de lui, alors que là c'est pas tout à fait le cas. Jean-Yves Le Naour et Christelle Galant montrent vraiment une femme beaucoup plus forte et surtout avec beaucoup plus de courage pour combattre un petit peu son mari que l'on revoit dans le film. Et c'est très très intéressant, mais évidemment ça n'enlève rien au fait qu'ils aient sauvé énormément de monde, tous les deux. En tout cas les justes, donc Emily et Oscar Schindler, est un récit qui moi m'a plu justement parce que j'avais adoré le film, et que justement on va suivre davantage la femme d'Oscar Schindler pour vraiment rétablir une vérité, rétablir un équilibre. Et là, c'est vraiment à travers les dires de sa femme, une interview de sa femme, Emily, que l'on va avoir les vérités cachées un petit peu derrière l'image parfaite d'Oscar Schindler. Donc, Les Justes, c'est une collection aux éditions Grand Angle, où pour l'instant deux tomes sont sortis. Karl Lutz, que je connais moins, mais qui était apparemment un vice-consul de Suisse. Et c'est un des plus grands héros civils de la Seconde Guerre mondiale. Il va utiliser tous les stratagèmes possibles pour pouvoir empêcher le grand nettoyage ethnique mené par Adolf Eichmann. Donc c'est vraiment aussi un homme qui a beaucoup compté pour la sauvegarde de l'humanité, en tout cas d'essayer d'empêcher ce destin final pour tous les Juifs. Et le deuxième tome, Emily et Oscar Schindler, c'est aussi aux éditions Grand Angle. C'est toujours Jean-Yves Le Naour au scénario. Tous les deux albums sont de lui au scénario. Je ne sais pas s'il doit y en avoir d'autres dans la collection. En tout cas, pour l'instant, les deux premiers tomes. Moi, j'ai beaucoup apprécié avec le dessin très réaliste de Christelle Galant, vraiment magnifique. Et puis, cette femme forte. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très bon. Et du coup, Karl Lutz, comme je vous disais, je n'ai pas découvert encore, mais j'ai envie de le découvrir. Donc, je pense que c'est un album que je vais m'offrir pour pouvoir avoir la collection des Justes qui est parue aux éditions Grand Angle, chez Bambou, évidemment. Pour continuer dans cette même période, je vais vous parler d'un album que j'ai adoré, qui s'appelle Success Story. C'est de Fabien Grollo au scénario, Nico Cado au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Alors, ils mettent ça dans la collection Humour de rire. Certes, il y a de l'humour, mais ce n'est pas obligatoirement ce que je vois. Moi, c'est plutôt le côté un petit peu aventurier des deux personnages principaux, qui sont Jeanne et Angelo. ils sont généalogistes successoraux. Alors que c'est un petit peu pompeux, mais en fin de compte, c'est eux qui vont sont chargés par les comment dire, pas les avocats, mais les notaires, de découvrir si certaines personnes qui sont décédées ont des descendances, ou des descendances cachées, ou des descendances totales. Parce que du coup, il y en a qui, on pense qu'ils sont complètement célibataires avec aucun descendant, et en fin de compte, ils doivent rechercher un petit peu les descendants d'une personne qui est décédée. Et là, on va suivre ces deux personnages hauts en couleur, alors en particulier Angelo, qui est très fantasque et qui rentre dans des délires d'explications, mais qui en même temps est assez génial parce que il se met un petit peu à la place, il a beaucoup beaucoup de connaissances et il connaît énormément l'histoire, ce qui fait que il va pouvoir se mettre en scène un petit peu dans des différentes époques. C'est très drôle à voir. Et là, on va suivre Suzy Godard, c'est-à-dire que un notaire a découvert qu'une femme, donc, qui est décédée de sa belle mort dans une maison de retraite, dans un EHPAD, elle vient de mourir et elle laisse derrière elle 3 enfants. Mais ce qui est un petit peu intriguant pour le notaire, c'est qu'elle a un appartement qui lui appartient, mais dont n'ont pas connaissance apparemment les enfants. Et justement, il demande à Jeanne et Angelo, les fameux généalogistes, de venir sur place et d'essayer de voir un petit peu pourquoi elle a cet appartement qui n'est pas référencé en tout cas. Et ils vont découvrir qu'en fin de compte, c'est un appartement qu'elle avait avant, sous un autre nom, avec son ancien mari. Et oui, parce qu'elle était déjà mariée. Ils vont même découvrir une cachette secrète, une sorte de double pièce un petit peu, où il va y avoir plein de choses qui vont amener à une période dont on vient de parler, justement la Deuxième Guerre mondiale. Et on va découvrir que cette femme qui était, semble-t-il, française et était donc mariée avec un Français, en fin de compte, était elle à réfugiée d'Ukraine à l'époque. L'Ukraine de l'époque, et elle est venue en France pour pouvoir fuir la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui se passait évidemment dans ces pays. Mais il y a encore d'autres choses derrière, et ça je ne vais pas vous en dire trop, parce que justement, le gros point fort de cet album, c'est que Fabien Groslot et Nico Cado, alors Fabien Groslot par son scénario, nous amène un petit peu partout en Europe, voire même outre-Atlantique, pour pouvoir mener l'enquête. En tout cas, et chaque personnage, ils vont mener leur enquête pour pouvoir découvrir le passé de cette fameuse Suzy Godard qu'on pensait tout à fait classique et banale, et donc du coup qui va être beaucoup beaucoup plus mouvementée que ça. Je vous laisse découvrir parce que j'ai pas envie de spoiler du tout ce qui se passe, mais je trouve que j'ai plongé dans une aventure assez rocambolesque, parce que les personnages sont assez haut en couleur. C'est pour ça que c'est mis dans Humour de Rire aussi, parce que le dessin de Nico Cado est assez rond et très bon enfant, en tout cas dans les personnages principaux, et en particulier dans Angelo. Et on voit que c'est un petit peu délirant et ainsi de suite, mais en même temps le propos derrière raconte une histoire qui est vraiment réaliste, avec tout ce qui a pu se passer dans une famille et qui a été caché longtemps, du passif qui ressurgit sans le vouloir, parce que cette femme voulait rester discrète, voulait sur son passé, ne voulait pas gêner et choquer ses enfants. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, et puis surtout, elle avait des idées de ce qui avait dû se passer, de ce qu'elle avait dû laisser sur place. Mais en tout cas, je ne vous en dis pas trop parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Je vous dis juste, lisez Success Story parce que c'est vraiment très très bon, c'est drôle. Et là, c'est un récit complet. Apparemment, ce n'est pas un tome 1. Moi, j'aurais bien aimé que ce binôme, ce duo, Jeanne et Angelo, continue dans d'autres aventures. Et ce serait vraiment excellent parce que je trouve ça génial. Vraiment, vraiment génial. J'adore le style graphique, et puis je trouve que l'idée de mettre un récit d'aventure entre guillemets moderne, parce que du coup ils vont partir à notre époque mais rechercher un petit peu des informations du passé, mais avec un dessin assez léger, assez rond et assez, assez rigolo, me donne envie de suivre d'autres aventures de ce binôme qui est vraiment, je trouve, très original. Donc, Success Story, pour l'instant, c'est un one-shot. J'aimerais bien, et je dis si ça fonctionne, que Fabien Groslot et Nico Cado continuent un petit peu avec ce binôme-là. Vraiment, j'ai adoré cet album. Success Story à découvrir d'urgence chez Delcourt. Et on va rester encore dans la même période avec une réédition augmentée exactement de Après la rafle, une histoire vraie. On suit le destin de Joseph Weissmann, qui est un enfant de Montmartre, qui fait les 400 coups avec ses potes. Et puis après, la capitale est occupée par les Allemands. Et donc, du coup, comme il est juif, il est obligé de mettre l'étoile jaune. Et ensuite, le 16 juillet 1942, les gendarmes français l'arrêtent avec toute sa famille. Et c'est la fameuse rafle, du Veldiv. Ensuite, ils vont aller jusqu'à un camp, le Beaune-la-Rolande, un camp de transit. Et ensuite, il est enlevé à sa famille qui, eux, vont partir vers Auschwitz. Et il va pas les revoir. Et puis, du coup, il va Joseph, qui a 11 ans, va devoir essayer de survivre dans ces camps. Il va se faire un ami, Joe Kogan. Ils vont essayer de monter un plan d'évasion. Et il se glisse, à un moment donné, sous des barbelés. C'est toute une histoire vraie qui est vraiment très, très folle. Folle parce que du coup, ça a même fait l'histoire de film et ainsi de suite, toute cette période. Mais c'est complètement fou quand on en parle et quand on imagine encore tout ce qui a pu se passer. Donc cet album qui est essentiel dans une lecture, en particulier pour montrer la dureté de ce qu'ont pu vivre les déportés, c'est de Joseph Weissmann, évidemment, Arnaud Delalande au scénario, Laurent Bidot au dessin. Et c'est aux éditions des Arènes BD qui, à chaque fois, nous offrent des albums comme ça, très historiques, très, très forts, avec beaucoup, beaucoup de réalisme. Et là, justement, on a toute cette réalité, cet enfant tout à fait insouciant au départ, qui petit à petit, que l'on va suivre ensuite jusqu'à ce qu'il soit devenu adulte. C'est vraiment une histoire très forte que nous raconte Joseph Weissmann, alors qu'il ne voulait pas le faire au départ. Et c'est Simone Veil, un jour, qui, lors d'un colloque, l'a convaincu de contribuer au devoir de mémoire. Et depuis, donc, il continue à parcourir les lycées pour témoigner. Il participe à plusieurs débats. Et du coup, après la rafle, et l'histoire qu'il raconte, et son histoire à lui, tout simplement. C'est absolument génial. Donc, les Arènes BD ressortent Après la rafle, nouvelle édition augmentée pour les 80 ans de la libération des camps en 2025. Et donc, du coup, c'est vraiment un album à avoir et à ne pas oublier surtout et à faire partager au maximum. Après la rafle, la nouvelle édition augmentée est parue aux éditions des Arènes à découvrir absolument et obligatoirement. Et puis pour finir sur cette partie historique du début du 20e siècle, de la première période du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle, je vais vous parler d'Albert Kahn. C'est d'après un scénario de Didier Kella-Guillot, même si c'est une biographie plutôt, des dessins et des couleurs absolument magnifiques, donc de Manu Cazier, dessin très semi-réaliste, tirant presque des fois vers le comique un petit peu à certains moments, mais vraiment superbement bien dessiné, puis des couleurs absolument magnifiques. Et c'est paru aux éditions Très Étranges par Glénat, enfin sa collection Très Étrange de chez Glénat. Et ça nous raconte donc l'histoire, encore une biographie, de Albert Kahn. Alors, qui est Albert Kahn ? C'est un jeune homme qui quitte sa campagne natale à 16 ans pour s'installer à la capitale. Il va travailler dans une banque et il est simple employé de banque au départ. Mais à 22 ans, il arrive à spéculer pas mal des diamants, en particulier en Afrique du Sud. Et il ose explorer donc un marché encore inconnu dans tout ce qui est spéculation financière, l'Asie. Et du coup, il va réussir a monté sa propre banque parce qu'il a réussi à faire spéculer pas mal de choses grâce à ses affaires euro-japonaises dont il est vraiment le spécialiste. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Lui, il est devenu très riche du coup, mais lui, son idéal, c'est découvrir les peuples et documenter la planète. Donc, dès la fin du 19e siècle, 1898 exactement, il va proposer des bourses de voyage autour du monde à des étudiants, qui sont des hommes, des femmes, peu importe, pour qu'ils aillent documenter, donc qu'ils aillent à travers le monde pour se documenter et faire des reportages autour des peuples autochtones pour découvrir un petit peu tout ce qu'il y a autour du monde. Lui aussi va en faire, évidemment, et il va se lancer donc dans un inventaire visuel grâce aux caméras, à la photographie en particulier, les archives de la planète. Donc, il va utiliser un procédé qui s'appelle l'autochrome, un premier procédé industriel de photographie couleur. Il va donc, lui, aller en Asie, en Amérique latine, et il va missionner plusieurs, pendant 30 ans, des photographes dans une cinquantaine de pays du monde. Et du coup, il va comme ça constituer une base de photographie, d'images, pour vraiment présenter au monde entier, enfin en tout cas aux personnes qui viennent voir toutes ces photos, un petit peu tout ce qui peut se passer autour du monde. Et évidemment, là on est au début du XXe siècle, il va y avoir le krach boursier de 1929 qui va lui faire perdre son argent, évidemment quand on est banquier, et ensuite la guerre qui arrive, ça ne va pas obligatoirement aider non plus. En tout cas, c'est toute cette histoire que raconte Didier Guillot, et Manu Cassier, dans ce superbe album. Et j'ai découvert cet homme que je ne connaissais pas. Donc du coup, ça m'a passionné. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié, surtout que c'est très, très bien dessiné. Et j'adore ce style de dessin. Très semi-réaliste avec des couleurs directes magnifiques. Donc moi j'apprécie énormément ce style graphique, donc évidemment j'ai été attiré, et ensuite le propos m'intéressait parce que du coup Albert Kahn je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert cet homme et j'ai envie d'en savoir un peu plus, et je suis allé voir un petit peu plus de ce qu'on pouvait dire sur lui à travers les internets, comme diraient les jeunes. Oh là là ! En tout cas, Albert Kahn, un très bon album qui est paru aux éditions Glénat dans la collection 13 étranges. Continue avec Sodad de Vincent Turan, c'est aux éditions Sarbacane, c'est un one-shot qui nous fait penser évidemment à cette expression que l'on retrouve au Portugal, au Cap-Vert, qui signifie, alors il n'y a pas vraiment de vraie traduction, mais un peu la mélancolie du pays, et ainsi de suite. Et là, on va suivre la station balnéaire, une station balnéaire où un couple, Alma et Rio, tiennent un vieux cinéma à réessai. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses autour de ce couple et autour de ce cinéma. On nous présente plein d'autres personnages comme Luz, qui est une jeune ouvreuse, avec Scardo, le barman, qui n'a Dieu que pour Luz. Justement, il va y avoir deux flics, un petit peu ripoux, Ramos et Léon. Il y a Cisco, qui est un gringalet nerveux, et Misha, grand type un peu bavard, qui eux vont faire un casse. Mais Cisco, lui, il va trahir les autres, ses complices, et tout va s'emballer. Et là, il va y avoir une grande poursuite qui va se faire. Il va se réfugier dans le cinéma d'Alma alors qu'il y a une rétrospective autour d'un film en particulier. Il y a une rétrospective pour les 50 ans d'un film qui s'appelle Saudade, d'où le titre. Donc c'est pour ça que moi je pensais que ça allait être une mélancolie sur les histoires autour du Portugal, du Cap Vert éventuellement. Et en fin de compte, on est plutôt sur... pas vraiment un polar, mais un petit peu, mais en tout cas beaucoup de personnages différents que l'on va découvrir dans une situation sur une nuit en fin de compte où chacun va essayer un peu de se sauver, va essayer de découvrir qui est un peu l'autre et on va comme ça avoir les émotions de tout le monde. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que certes il y a beaucoup d'action, c'est un vrai polar comme on l'entend, mais aussi on a beaucoup les pensées et les idées de chacun, et je trouve que c'est très bien vu de ce côté-là. On n'est pas que sur du polar pur, on n'est pas sur du polar noir totalement, mais lorsque Alma et Rio discutent, et en particulier quand Alma parle de sa passion pour le cinéma, évidemment, on a vraiment autre chose que juste le polar pur, comme on l'entend. Le dessin est très original, assez dur, un petit peu un dessin noir et blanc qui pourrait être vraiment très sombre. Et en même temps, les couleurs vont nous permettre d'avoir des nuances un petit peu sur les gueules des personnages qui sont assez caricaturales pour en particulier les méchants, les flics ripoux par exemple. C'est assez flagrant. Il y a vraiment des grosses lèvres, des grosses joues, des grosses têtes, ce qui est assez drôle et qui donne un côté aussi pas trop noir à ce polar. Et puis on plonge comme ça dans l'histoire et dans l'aventure et je trouve ça très très bien écrit, très bien vu. Ça part un petit peu au départ, on se demande où ça va justement et petit à petit on raccroche les pièces du puzzle pour suivre la finalité dans le dernier quart de l'album où là tout le monde va être vraiment à sa place parce qu'on découvre au départ, comme je vous le disais, tous les personnages un petit peu ensemble qui évoluent pas toujours ensemble au départ et qui petit à petit vont se retrouver au même endroit. Saudade est donc un très bon album, très bien écrit, superbement bien dessiné, en tout cas très original dans sa façon de dessiner de Vincent Turan et j'ai beaucoup aimé cette histoire et du coup j'aimerais bien que vous la partagiez et que vous appréciez aussi comme j'ai pu le faire ce très très bel hommage aussi au cinéma que l'on retrouve dans Saudade aux éditions Sarbacane. Dans la collection donc des grandes étapes du Far West, La ruée vers l'or, c'est un scénario de David Goa, Luca Benigno et des dessins de Roberto Melli avec le conseiller historique Farid Hammer. Et c'est aux éditions Glénat. Il y en a eu plusieurs comme ça, des histoires entre les personnages et les différents personnages, mais aussi les différentes époques. Et là, La ruée vers l'or, évidemment, vu qu'on parle du Far West, la création du Far West, évidemment, que La ruée vers l'or en fait grandement partie. On est en mai 1848 et il y a eu une découverte. Jane Marshall a découvert sur le site de Sutter Mill, a découvert de l'or. Et donc, c'est ce que va faire profiter Samuel Brannan, que l'on va suivre. Brannan, lui, il n'est pas obligatoirement chercheur d'or, mais lui, il va acheter à bas prix tous les outils qu'il trouve dans la région. Il va ouvrir des magasins pour revendre des pioches, des tamis, des pelles et tous les matériels nécessaires à la prospection. Et il va les revendre 100 fois plus fort que ce qu'il a acheté. Donc comme ça, il va devenir très très puissant, il va devenir multimillionnaire. Et par contre, on est en train de suivre, évidemment, entre 1848 et 1856, près de 500 000 individus qui se précipitent évidemment avec de grands dangers vers l'Eldorado californien, comme on disait. Ils viennent des États-Unis, mais il y en a qui sont venus d'Europe, d'Asie, d'Australie ou même d'Amérique du Sud. Et des femmes, des hommes qui sont évidemment, qui veulent retrouver aussi eux-mêmes de l'or, mais très très peu arriveront à en faire, donc à devenir riches grâce à cela. Et c'est ce qu'on découvre dans cette ruée vers l'or, entre ceux qui ont profité, comme beaucoup le font, d'une mode, d'un système qui va leur permettre de faire fortune, et donc profiter des plus faibles, donc de ceux qui ont le plus besoin peut-être, et puis ceux qui vont aussi découvrir, et puis la cruauté de certains, et tout ça va être découverte, enfin va être narré dans la ruée vers l'or. Donc si vous aimez cette période-là, si vous aimez les albums réalistes avec beaucoup d'informations, vous allez apprécier La Ruée vers l'or, donc aux éditions Glénat. Dans un autre western, mais là cette fois-ci on est dans quelque chose de beaucoup plus psychologique et vraiment excellent aussi. Alors là j'ai même préféré même celui-là, ça s'appelle... Hop, je suis en train de chercher le nom parce que du coup, Leave Them Alone, c'est aux éditions Grand Angle, c'est des Roger Setter au scénario, Chris Regnault au dessin, et c'est une histoire complète absolument magnifique que nous propose donc aux éditions Grand Angle ce binôme. Là, on est dans un vrai polar même du Far West. On est en 1874, on est dans l'Ouest américain, dans une zone où il n'y a rien, quasiment rien. Il y a des voyageurs, des migrants, qui sont... Il y a beaucoup, donc, du coup, vu qu'il y a des voyageurs, des migrants, beaucoup de pillards, de bandits. Il y a des... des diligences qui passent avec de l'argent en plus. Et du coup, évidemment, tout cela, ça donne envie d'essayer de récupérer tout ce qui peut être donc l'argent et ainsi de suite. Et là, on a un relais, on va suivre vraiment la vie d'un petit relais de Dead Indian Peak. C'est Marianne Potter qui a ce relais où s'arrêtent les diligences, les voyageurs, mais évidemment qui est aussi proie à des malfrats qui viennent aussi, mais qui ne sont pas les bienvenus, évidemment. Il y a la jeune Elfie qui est aussi dans ce relais. Et puis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Je ne vais pas vous en dire trop, parce que je n'ai pas envie de trop spoiler. Mais on va avoir un mystérieux cavalier qui va arriver, qui a l'air de connaître, que en tout cas Marianne a l'air de connaître. Il va y avoir une jeune femme qui va aussi, elle, arriver et qui cherche quelque chose, apparemment, on ne sait pas trop quoi. Et puis, évidemment, une bande de tueurs qui va, elle aussi, arriver dans le coin. Parce qu'il va y avoir de l'argent qui doit arriver, une grosse malle remplie d'argent. Et eux, ils sont là pour ça. Mais les autres, pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Qui sont les différents protagonistes les uns pour les autres? Ça, je vous laisse le découvrir. Parce que, justement, c'est tout ce qu'avait à nous offrir Roger Setter dans cet album, c'est une montée en puissance, une découverte. Alors il y a le côté très western justement où on met en place avec du temps, donc c'est pour ça que l'album il est quand même assez épais, avec beaucoup de pages. Il y a 154 pages de dessins où des fois il n'y a pas de dialogue, vous avez des moments un petit peu d'attente comme on peut le voir dans les westerns, et jusqu'à une montée en puissance finale qui est absolument géniale à suivre. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet album. Le dessin semi-réaliste de son nom, de Chris Regnault, parce qu'il y a un autre Regnault dans le monde de la bande dessinée. Là, c'est Chris, c'était le prénom surtout que je recherchais pour ne pas faire d'erreur. Donc de Chris Regnault est vraiment très bon. Les personnages sont très bien campés, sont vraiment ont une grande personnalité. La couverture est magnifique. Je trouve que la couverture est très belle, avec deux femmes qui se font dos à dos et qui sont en train de tirer, l'une au pistolet, l'autre à la carabine, avec le grand titre au-dessus, et c'est sur un fond rouge. Moi, je trouve l'ensemble est très, très bien vu, très, très bien fait, superbement bien écrit, superbement bien dessiné, et superbement bien édité aussi par Grand Angle, qui qui a vraiment nous offre ici un très très bon western que j'ai énormément apprécié, que je vous conseille grandement. Ça s'appelle Leave Them Whole, Leave Them Alone, pardon, pas Lone, Leave Them Alone, Laissez-les Seuls, et vraiment une grande réussite aux éditions Grand Angle. Allez, on change d'époque avec des broum broum. Là, on va partir sur des voitures avec Michel Vaillant. La saison 2, le tome 14 déjà, ça s'appelle Rempart au pluriel. C'est un album dessiné, scénarisé par Lapierre, dessiné par Bourgne et Elam. Et c'est aux éditions Graton, évidemment, toujours diffusé par Dupuis, comme d'habitude, pour tout ce qui est les éditions Graton. Là, Michel Vaillant est obligé, en tout cas les Vaillants sont obligés d'arrêter la compétition parce qu'il y a un crack financier qui se profile s'il y a vraiment, s'il continue. Ils n'ont plus assez les moyens financiers pour l'instant de pouvoir continuer à faire plusieurs saisons de voitures en même temps. Ils vont juste continuer à faire de l'IndyCar avec leur pilote qui est une femme, je ne me rappelle plus de son prénom. Ils vont être obligés d'arrêter pour l'instant de faire de la compétition automobile. Évidemment, Michel Vaillant, ça ne lui plaît pas trop, hein, évidemment, mais il est obligé de jouer les VRP. Et donc, il va participer au circuit des remparts à Angoulême afin de présenter la nouvelle Vaillante qui est donc un fer de lance pour pouvoir peut-être relancer la marque et donc peut-être se relancer aussi dans le sport automobile. Mais la voiture est volée et donc du coup, ça va mal se passer. Surtout que Michel, qui essaye de suivre les voleurs de la voiture, va être lui aussi kidnappé. Donc, qu'est-ce qui va se passer du coup et pourquoi surtout a-t-on volé cette nouvelle Vaillante qui devait être présentée au public en grande exclusivité lors de ce circuit des remparts, lors de ce Grand Prix d'Angoulême? À vous de le découvrir, c'est vraiment bien fait, c'est très bien dessiné, toujours évidemment, hein, on est toujours dans cet univers graphique que Jean Graton avait mis en place, mais un petit peu modernisé, avec vraiment un peu plus de rondeur par moment, et ainsi de suite, mais en tout cas toujours aussi bon, c'est toujours plaisant à lire, toujours plaisant à lire. Le scénario est assez simple. Là, on est un peu plus sur de l'enquête, un petit peu, voire des rebondissements, des fois un petit peu faciles. Mais en tout cas, ça fonctionne toujours. Donc, Michel Vaillant, saison 2. Si vous aimez Michel Vaillant, automatiquement, vous allez apprécier ce nouvel album. Je pense en tout cas que pour les aficionados de Michel Vaillant, ils ne seront pas déçus. Il y a moins de courses automobiles. Peut-être que c'est ça qui peut peut-être les déranger. Mais en tout cas, il y a quand même toute une poursuite et puis Michel Vaillant est quand même mis en avant dans cet album. Michel Vaillant, saison 2, donc tome 14, paru aux éditions Graton. On enchaîne avec trois albums dans la collection Patakès de chez Delcourt. Le premier s'appelle Quiproquo. Le tome 1 s'appelle L'existence ridicule. C'est de Constance Lagrange. Et donc, du coup, là, on est sur des gags, alors c'est format carré, donc souvent en quatre cases, où on va avoir justement deux personnages, souvent dessinés très de façon réaliste, donc qui est vraiment super bien, justement. C'est très drôle parce que le quiproquo, la dernière case qui va changer complètement le propos de la situation de base, est importante et c'est là que va amener le côté sérieux du début de la conversation. Et le début de la réflexion qu'il va y avoir dans les trois premières cases, avec le dessin en plus très réaliste. Donc on se dit ça va être quelque chose de sérieux. Et en fin de compte, le dernier, la fin de vraiment le gag du coup arrive par non pas quelque chose de graphique, mais quelque chose de dit et donc de psychologique. Et c'est super drôle. Donc il y a vraiment plein de choses qui m'ont fait mourir de rire, enfin mourir peut-être pas, parce que je ne serai pas derrière le micro autrement pour pouvoir vous en parler, enfin devant le micro, mais on est vraiment dans quelque chose qui fonctionne avec un gag qui tombe vraiment juste à la fin, et moi j'ai apprécié et adoré ce quiproquo complètement fou, c'est quiproquo, parce qu'il y a un S à quiproquo, est vraiment une très très belle découverte que j'ai beaucoup appréciée et que j'espère vous allez aussi apprécier. Sur la collection Patakès, il y a un petit peu de tout. Il y a vraiment des choses qu'on apprécie beaucoup, d'autres un petit peu moins. Bah justement, tiens, dans cette après quiproquo, je vais vous parler du lapin des Baskerville. C'est de Pierre Mortel et de Anaïs Dumas. Pierre Mortel au scénario, Anaïs Dumas au dessin. Toujours dans la collection Patakès de chez Delcourt. Là, cette fois-ci, on est dans une forêt avec des personnages que l'on va voir petit à petit. Pareil, on est sur des cases assez minimalistes, il y en a peu à chaque fois. On va d'abord rencontrer un lapin qui, lui, pense faire régner vraiment la terreur dans cet univers donc de forêt et de plaine et de forêt. Et donc, il se fait appeler le lapin des Baskerville. Il y a un duo d'escargots qui sont un petit peu délirantes, surtout parce qu'elles ont toujours des discussions entre eux qui amènent un petit peu l'humour. On a un poussin de 500 kilos dont la maman s'est fait bouffer par un renard. La maman qui, elle, était tout à fait normale, lui, il recherche là, au début celui qui a fait disparaître sa maman. Il y a des loups qui sont là aussi. Enfin voilà, il y a un ornithorynque aussi qui arrive à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi. Et justement, il y a un côté, alors déjà très naïf dans le dessin, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que ça fait un petit peu dessin d'enfant, mais volontaire, avec des lapins, bah, c'est une sorte de petits nuages, on va dire, avec des pattes, mais c'est juste des traits, des oreilles, vraiment quelque chose de très minimaliste qu'on pourrait trouver dans un dessin d'enfant, mais évidemment adapté à la bande dessinée. Ça, c'est plutôt, plutôt sympa et plutôt marrant. Je trouvais ce dessin volontairement minimaliste. Par contre, j'ai pas vraiment beaucoup ri ni souri. Je trouvais que la situation était un petit peu abracadabrante et du coup, ça apporte certes des situations, mais qui m'ont pas fait vraiment rire ou sourire. J'ai lu ça, bon, ben, j'ai apprécié le dessin, donc c'est ce qui m'a. Ah, et pourtant, le dessin, comme je vous dis, va rebuter en plus certains. Donc, si vous appréciez pas le dessin, moi, j'ai pas beaucoup apprécié le scénario. Voilà, c'est faut rentrer un peu dans le délire. J'ai l'impression qu'il y a un très 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 gros délire parce que c'est fou. C'est un petit peu trop fou. Mais là, je pense que la mise en situation est un petit peu trop abrupte pour que je sois rentré dedans complètement. Donc ça s'appelle Le Lapin des Baskerville. Moi, j'ai moins apprécié dans cette collection Patakès, alors que j'avais adoré Quiproquo, et que j'ai beaucoup apprécié aussi Pipout, la loose au naturel. Là, on est sur quelque chose d'assez original aussi, c'est de James. Alors avec un dessin très très cartoon, un petit peu, donc du coup on se dit une petite nanette, une petite chienne qui vit sa vie de, voilà, de petite chienne, elle est toute mignonne, etc. Et en fin de compte, c'est une vraie vie d'adulte qu'elle vit, donc du coup c'est une jeune femme moderne, elle a certes une tête de caniche, mais elle gravite autour d'elle plein de copines, des colocataires, des amoureux multiples, des partenaires sexuels, enfin voilà. Et du coup, les propos qui ne sont pas obligatoirement dans le propos l'image ne correspond pas obligatoirement au propos qui est dit dans les aventures de Pipout. Et c'est très drôle. On retrouve tout l'humour de James, qui peut être un humour des fois assez absurde, des fois insolent aussi, un petit peu trash par moment. Il y a vraiment tout un mélange dans son petit personnage, tout de rose vêtu, enfin voilà, toute mignonne comme ça, mais des fois qui peut sortir des insanités terribles, mais aussi d'avoir un petit côté très 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 gamine. Voilà, il y a vraiment de tout dans cet univers là. C'est drôle. Et James, de toute façon, est excellent. C'est lui, en plus, le directeur de la collection, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. C'est juste que si on lui a fait confiance pour faire devenir directeur de la collection humoristique comme ça, c'est que lui, de ses écrits, était déjà très bon. Et moi, j'adore ce que fait James. Et là, c'est encore un... J'ai été surpris. J'ai été déstabilisé au départ, parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de tout mignon. Et en fin de compte, on est beaucoup plus sur quelque chose de très actuel en même temps, hein, sur des propos assez féministes, très souvent de Pipoute aussi. Donc Pipoute de la Loose au naturel est vraiment quelque chose que l'on peut lire avec un grand grand plaisir, mais à notre époque, parce que vraiment ça nous touche et ça nous fait penser à beaucoup de choses que l'on retrouve à notre époque. Donc Pipoute de la Loose au naturel, le Lapin des Baskerville et Quiproquo, trois nouveautés aux éditions Delcourt, donc dans la collection Pataquès. Alors quand je dis trois nouveautés, c'est les trois nouveautés de ces trois derniers mois, les trois dernières sorties dans la collection Pataquès. Allez, une petite claque visuelle et aussi même scénaristique. C'est un one-shot qui s'appelle « Dehors ». C'est de Dan Verlinden au dessin, de Emberg au scénario. Et c'est aux éditions Keness. Alors, « Dehors », déjà, on va retrouver la virtuosité du dessin de Dan, que l'on a déjà pu voir, évidemment, dans « Le Petit Spirou », mais surtout dans « Soda ». Et puis dans son autre album chez Keness qui s'appelle Rage, qui est absolument magnifique. Là, on ne va plus retrouver d'animaux dans cet album. On va retrouver tout un monde souterrain parce qu'on est dans un récit de science-fiction, mais science-fiction glauque, sombre, mais en même temps accessible à tout le monde parce que du coup, on va suivre des enfants en particulier. Et il va falloir juste qu'ils comprennent et qu'ils se mettent un petit peu dans la situation. On est dans des ruines, dans une ville engloutie, parce que la surface de la Terre, c'est devenu une grande banquise, en fin de compte. Et du coup, la ville, on en a oublié le nom, mais il y a une communauté qui survit depuis plusieurs siècles dans cette cité sombre, froide, et il y a un tunnel qui donne accès à l'océan, qui lui est devenu en plus toxique. Donc il y a tout le côté négatif du monde actuel que l'on est en train de polluer, qui est resté à la surface. On va suivre Zach, qui est un orphelin qui vit pour l'instant à l'orphelinat. Je dis pour l'instant parce que il est devenu une sorte d'esclave, on va dire, du système, parce que tant que les enfants sont jeunes, ils sont chargés d'aller récupérer une substance qui est la seule substance qui permet de survivre, donc de faire des aliments qui est assez difficile d'aller récupérer parce qu'il fallait en dehors justement de la structure qui est constituée autour de la ville pour pouvoir ensuite nourrir les autres. Et évidemment, les enfants sont les plus simples à pouvoir, sont les plus aptes à y aller. Par contre, à un moment donné, lorsque leur puberté arrive, ils vont sortir de cet esclavage moderne, entre guillemets. Ils ont un bracelet qui va s'enlever lorsqu'ils vont devenir pubères. Et c'est ce qui va arriver à Zach, justement. Et Zach, du coup, va se dire, maintenant que je suis libre, comment je vais faire pour survivre? Et pourquoi pas ne pas essayer d'aller plus loin, de sortir dehors, justement, d'où le titre de l'album. Il va être accompagné de plusieurs autres enfants, Silo, Jed, et qui vont, eux, sont tous reliés par une même personne qui justement recueille un papy qui va les récupérer pour pouvoir les élever, tout simplement, les aider et leur montrer un petit peu les différentes choses qu'il y a possibilité de faire et à l'intérieur de la structure, mais pourquoi pas aussi essayer de fomenter avec eux un plan un petit peu d'évasion. C'est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire que même si on a un peu de mal à rentrer un peu dedans au départ, parce que la structure, il faut un peu la comprendre, qui fait quoi, pourquoi ça marche comme ça, c'est pas toujours un petit peu évident au départ. Mais comme dans tous les films de science-fiction où c'est pas toujours évident, enfin quand je dis pas tous les films, mais tous les œuvres de science-fiction où on va avoir un monde que l'on ne connaît pas, qu'il va falloir découvrir petit à petit et qu'on va découvrir comme ça au fur et à mesure. Et là, une fois qu'on a compris un peu la structure, après évidemment, l'aventure de ces ados et enfants va prendre encore plus de conséquences et va être beaucoup plus importante. Et c'est vraiment très très agréable, surtout que le dessin de Dan est absolument magnifique. Vraiment toujours d'une subtilité folle et en même temps avec une perfection totale dans la plupart du temps, dans toutes ces planches. Vraiment un plaisir de lecture, un plaisir des yeux qui est renouvelé à chaque fois que je lis un de ses albums. Et là, c'est encore plus flagrant dans celui-là parce qu'il y a une liberté où il n'est pas contraint par des personnages déjà existants. Donc le fait qu'il invente lui-même les personnages graphiquement, bah, il leur donne encore plus de liberté et je trouve ça absolument magique. Après le thème, on le retrouve un petit peu dans différents films ou dans différentes œuvres justement de science-fiction, un petit peu Blade Runner, un petit peu, la dernière fois j'avais vu Alien Romulus, si je me rappelle bien, que c'est celui-là où au départ ça commence sur une sorte de planète justement très sombre, très où chacun essaye un peu de survivre et à un moment donné les jeunes vont partir avec un vaisseau. Mais voilà, on est tout un système d'enfermement, de difficultés à survivre avec les plus pauvres qui sont les plus mal logés évidemment et les plus mal lotis et tout ça, bah, on ressent cette pression et en même temps ce n'est pas non plus trop violent, c'est-à-dire que on a certes la violence du système, la violence de l'endroit, mais pour que ça reste lisible par toute la famille, voilà, à partir de 12 ans, on va dire, collégien 4e, 3e, ça commence vraiment à être la cible pour commencer à lire ce type d'œuvre. Voilà, on va prendre plaisir à tous les niveaux d'âge ensuite pour découvrir ce dehors, qui est un très très bon one-shot, voire excellent one-shot exactement, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Parce que graphiquement, vous n'allez pas en revenir. Et puis, scénaristiquement, même si vous avez des traits qui ressemblent à d'autres choses que vous avez déjà peut-être lues ou vues, voilà, vous allez encore plus apprécier parce que le trait de Dan, vraiment, est d'une beauté vraiment impressionnante. Dan Verlinden au dessin, Emberg au scénario. Ça s'appelle Dehors. C'est une claque de chez Kenneth. Il faut absolument, absolument lire une nouvelle édition de Satanie de Fabien Vellman au scénario, Kerasquet, donc le binôme de dessinateur au dessin, et c'est aux éditions Soleil dans la collection Hors Collection. C'est donc un album où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Charlie. Son grand frère est parti faire une exploration, il est parti dans les entrailles de la Terre. Il est parti dans les entrailles de la Terre parce que pour lui, il y a donc, il veut prouver qu'il y a l'existence de l'enfer, et qui dit enfer, donc dit des personnes qui vivent en enfer. Et il a voulu y aller. Mais il a disparu, il n'est pas été retrouvé, et donc il n'y a rien qui dit qu'il est encore vivant ou mort. Et Charlie, elle, est persuadée qu'il est encore vivant, et elle veut aller voir par elle-même s'il est encore vivant. Et donc elle va monter une expédition où elle ne sera pas toute seule, il y a un prêtre et puis je ne sais plus exactement une autre personne. Ils vont descendre donc dans les entrailles de la Terre justement. Et là, ils vont découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que oui, apparemment, Constantin n'est pas loin d'avoir vécu, trouvé la réalité en tout cas, d'avoir peut-être mis le doigt sur quelque chose. Oui, il existerait un enfer, mais un monde qui survivrait dans dans le profond de la Terre pour avec son univers à lui et ses personnages aussi, ses différentes catégories de personnages, ses différentes personnes, humains ou pas. Enfin, à vous de découvrir tout ça. Parce que justement, le gros intérêt de Satani, c'est qu'on ne vous révèle pas trop ce qui va se passer. Parce qu'on va de découverte en découverte, vu que Fabien Wellman offre justement à son lectorat vraiment des découvertes folles, des choses inattendues. Et c'est ça qui fait le sel de cet album, qui est très très bien dessiné par Kerasquet, comme d'habitude, où on va avoir un côté un petit peu souple du dessin qui donne justement encore plus les recoins, les entrailles, etc., qui vont aller de gauche à droite, qui vont un petit peu tourner dans tous les sens, un peu tarabiscoter des profondeurs de la Terre. Et on va retrouver tout ça dans la narration aussi, parce que tout peut arriver. On ne sait pas trop ce qu'il va subvenir de Charlie, qu'est-ce qu'il va subvenir, est-ce qu'elle va-t-elle retrouver son frère, est-ce qu'il est encore vivant ou pas, comment ça se passe et comment fonctionne ce monde qui est évidemment, bon là je vous spoil un tout petit peu, mais qui existe, son monde donc souterrain. Satani est donc un excellent album. Je ne connaissais pas la première édition qui était sortie. Là, celle-là, moi, je l'ai beaucoup appréciée parce qu'en plus, le soleil nous propose un bel écrin, un bel ouvrage pour pouvoir mettre en valeur ce récit vraiment très impressionnant et très agréable à lire. Un petit peu fou et en même temps plein de surprises. Donc, c'est ce que moi, j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture. Satani aux éditions Soleil. Et Sans Voix, c'est ce que j'ai retenu en lisant certains albums. Et Sans Voix, c'est aussi un album de Alessandro Azzei et de Manuel Morlacco avec des dessins de Lydia Bolognini. C'est paru aux éditions Glénat. C'est un one-shot où on va être une sorte de fable où on est dans une ville, enfin sur l'île de Momok exactement, et beaucoup d'individus ont des apparences animales, donc ils ont tous quasiment des apparences animales, mais ils vivent dans le silence. Il n'y a plus personne qui peut discuter, qui peut parler, et le maire de la ville a convaincu, après qu'il y ait eu beaucoup d'épisodes de violence, que la cause de tous les problèmes provenait de la médisance, des ragots et des discours haineux. Et donc, il a supprimé la parole des gens. Donc, il a privé les habitants de leur bouche, ce qui leur permet de ne plus rien dire sur les autres. Donc, évidemment, ça n'envenime pas les différentes discussions qu'il n'y a plus du coup. Donc, les gens communiquent par écrit, via des messages sur leur téléphone ou par des notes manuscrites. Et il y a quelques personnes encore qui ont la possibilité de s'exprimer, les poètes, par exemple. Et là, on va suivre Aware, un garçon à queue de raton laveur. Lui, il est passionné de musique et il fait partie des rares cas où il va pouvoir utiliser sa bouche car il aime chanter. Et donc, du coup, on lui a laissé la possibilité de chanter. Lorsqu'il va rencontrer un jour deux camarades qui s'appellent Ruby, qui est une jeune fleuriste, et Moroy, la fille du maire, et les deux, donc apparemment, se sont séparées l'une de l'autre et elles s'étaient amoureuses l'une de l'autre et elles ne peuvent plus, elles ne sont plus en relation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lui va essayer de comprendre et d'essayer peut-être de remettre donc de l'amour entre elles. Puis, il va y avoir d'autres choses, évidemment, parce qu'évidemment, cet univers-là ne permet pas que juste une histoire de romance. Il va y avoir aussi toute une compréhension du monde extérieur qui va être assez importante. C'est un dessin style manga, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait être assimilé à du manga, avec la fantaisie aussi du manga, parce qu'il y a des personnages à queue d'animaux et ainsi de suite, qui sont complètement différents de ce que l'on peut retrouver dans un récit européen, franco-belge, va-t-on dire, classique. Et puis voilà, donc on lit ça avec plaisir, un beau dessin, une histoire qui nous apporte, qui nous emporte en tout cas, parce qu'on veut découvrir. C'est une curiosité qui m'a vraiment tiré vers cet album, ce qui m'a permis de découvrir un récit agréable qui ne rentrera pas obligatoirement dans les mémoires scénaristiques, mais qui m'a vraiment permis de passer un très bon moment. Peut-être qu'un public un peu plus jeune encore appréciera davantage. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié Sans Voix, un one-shot de chez Glénat. À vous de le découvrir, comme ça vous allez pouvoir vous en faire peut-être l'écho positif. Et puis là, je vais être obligé de dire un petit peu moins de positivité sur un album que j'ai beaucoup moins apprécié. Ça s'appelle Picsou et les Beats Coin Coin. C'est de Jules au scénario, de Keramidas au dessin, et c'est aux éditions Glénat. Pourquoi j'ai pas trop apprécié, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, Picsou, donc c'est, vous savez, l'homme le plus riche, enfin le canard plutôt le plus riche de Donaldville et donc de cet univers créé par Karl Barks. Et donc du coup, Balthazar Picsou semble toujours donc le plus riche, mais un jour, il apprend que le titre de canard le plus riche du monde lui a été volé par le mystérieux Karsten. C'est une nouvelle fortune. Et pourquoi il a une nouvelle fortune? Lui n'a pas de pièce, il ne plonge pas dedans tous les matins parce qu'il est parti sur la crypto-monnaie. Et du coup, le Picsou se retrouve donc être le deuxième plus riche et ça lui va pas du tout. Donc il va essayer de comprendre, enfin en tout cas c'est Riri, Fifi, Loulou, les castors juniors qui vont essayer de comprendre et lui expliquer surtout comment on peut, grâce à la crypto-monnaie, réussir à gagner plus d'argent. Et Géo Trouve Tout aussi vont l'aider à essayer de comprendre ce système. Donc il veut devenir de nouveau le meilleur. Donc monnaie virtuelle, followers, selfie. Donc tout ça, ça va être mis en place pour pouvoir essayer de refaire monter l'oncle Picsou au plus haut, au firmament des hommes les plus riches, enfin des canards les plus riches. Mais Karsten, lui, de son côté, va être aidé par les Rapetous pour essayer de récupérer la fortune de Picsou, mais là, par des biais virtuels, justement, par tout ce qui est cyberattaque. Donc, que va-t-il faire? Que va-t-il se passer? Alors, du coup, certes, ça peut être intéressant de mettre un petit peu de modernité dans cet univers de Donald, de Donaldville et de cet univers autour des canards les plus connus du monde quasiment. Mais là, j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça un peu lourd et y a quelques petites blagues, mais sans plus, qui m'ont fait vraiment rire. J'ai été très déçu par le scénario, vraiment très déçu par le scénario et j'ai pas apprécié du coup ma lecture. Surtout que le dessin, je l'ai trouvé aussi un petit peu trop rapide à mon goût. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de lisibilité dans certaines cases et puis de facilité dans d'autres. Avec j'ai eu l'impression, en tout cas moi, des problèmes de perspective, de différentes choses qui m'ont gêné. En tout cas dans le dessin. Donc voilà, j'aime bien la collection donc Glénat et Disney. J'avais aimé certaines choses, d'autres que j'ai moins aimé aussi. Mais là, j'ai trouvé que cet album-là était vraiment, vraiment, vraiment très décevant. Très décevant, j'attendais. Hein. J'attendais plutôt beaucoup même cet album. Moi j'ai été déçu. Je ne le trouve pas très beau graphiquement. Je ne trouve pas intéressant du tout scénaristiquement. Je trouve pas drôle et donc du coup c'est une unique lecture je pense que je vais faire et je ne vais pas obligatoirement alors je le conserverai sans doute pour la collection, mais en tout cas ce n'est pas du tout un album que je relirai volontiers, alors que dans cette collection là il y en a d'autres que j'ai envie de relire comme même celui de Loisel par exemple ou d'autres, mais celui-là m'a vraiment vraiment déçu. Si vous ne faites pas la collection, évitez-le, je pense. Ce n'est pas obligatoirement celui qui va être le plus intéressant. Il y en a un autre qui arrive, le prochain qui arrive, a l'air beaucoup, beaucoup plus beau. C'est Mickey et les Pirates, si je me rappelle bien, de Dave et de Joris Chamblin. Et là, ça a l'air d'être une tuerie. Rien que la couverture et quelques planches qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, là, ça va être vraiment quelque chose de très bon. En tout cas, j'espère que là, que la petite lueur d'espoir dans ce nouvel album qui va arriver, je crois, début de l'année, 2 ou 3 janvier, je crois. En tout cas, celui-là, moi, pour moi, il serait à éviter si vous voulez voilà, ne pas trop. Voilà. Je ne dis pas plus, en tout cas, grosse déception pour ce nouveau Picsou chez Glénat. Bon, des fois, on est déçu par un album qu'on attend, et puis d'autres, ben, des fois, on l'attendait pas obligatoirement, même si on sait qu'il va y en avoir un. Spirou et Fantasio classique, Les Trésors de San Inferno. C'est de Lewis Trondheim au scénario, Fabrice Tarin au dessin. Et là, c'est sympathique, mais non, mais pareil, le scénario, des fois, est un petit peu simple. Par contre, le dessin de Fabrice Tarin, là, pour moi, c'est celui qui reprend le mieux ce Spirou et Fantasio classique. Donc, là, il y a un nouveau scoop qui vient d'arriver. Fantasio, donc, est sur le pied de guerre. Les deux compères sont donc en route pour San Inferno, un village isolé d'Amérique centrale. Et lorsqu'ils vont arriver dans ce village, bon, dès le début, on leur dit « attention, fuyez, il y a quelque chose qui ne va pas ». En tout cas, on leur met un peu de pression, voire beaucoup. Mais ils vont suivre la femme du maire qui va les mener jusqu'à une découverte qu'ils ont faite dans les grottes un peu plus profondément. Ce serait un squelette d'extraterrestre. Il y a un médaillon sur lequel figure un plan donc, autour de ce squelette. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est vraiment un squelette? Est-ce qu'on est dans le Indiana Jones et le crâne de cristal? Ben, vous allez le découvrir en lisant cette histoire. Alors, certes, qui est plutôt... voilà, c'est sympa à lire, mais ce n'est pas non plus une grande, grande histoire de Lewis Trondheim. Je l'ai connu un peu plus délirant dans ses histoires, un peu plus rigolo aussi par moments. Mais en tout cas, le dessin de Fabrice Tarin est bon et donc du coup, ça donne vraiment envie de le lire. On a vraiment une envie de suivre l'aventure et puis ben, c'est Spirou parce qu'on aime Spirou et suivre parce que le dessin de Fabrice Tarin est vraiment très très bon. Maintenant, voilà, c'est pas le meilleur des Spirou que j'ai lu, mais en tout cas, celui-là est plutôt agréable. Et puis graphiquement, comme je vous disais, la couve est super belle et puis les personnages, on les reconnaît bien, on a envie de suivre leur aventure. Il y a ses cotines, il y a tout ce que l'on veut apprécier dans un Spirou. C'est Spirou et Fantasio classique, dit de la collection classique, Le Trésor de San Inferno, est vraiment un bon album sans être extraordinaire, mais graphiquement déjà, vous allez vraiment l'apprécier. C'est chez Dupuis évidemment, comme depuis le début de la collection de chez Spirou, c'est toujours chez Dupuis. Comme l'est, toujours chez Dupuis, la collection Game Over. Le tome 24 s'appelle Fish and Chips. Toujours aussi drôle, c'est de Midam et Consort, parce qu'il y en a plusieurs qui dessinent. C'est Adam, je crois, qui fait beaucoup le dessinateur sur Game Over. Toujours Game Over, le jeu vidéo, vous savez, le petit barbare qui est l'avatar de Kid Paddle. Et là, du coup, bon, on suit toujours des aventures. Il y a des choses qui sont un peu déredites, en tout cas qu'on a l'impression d'avoir lu de jour. Mais bon, ça va, ça marche très bien. Des petites histoires avec la princesse qu'on le doit sauver et qui, elle, est de plus en plus crétine par moment. Voir là, cette fois-ci, il y a Kid, l'avatar, donc le petit barbare, qui, lui, des fois, est un peu crétin. Et c'est à cause de lui, justement, que ça va mal se passer. Alors que la princesse, elle, a une ou deux fulgurances dans l'album, ce qui change un petit peu de d'habitude. Après, le dessin, là, c'est du dessin type Spirou, Marcinelle, l'école Marcinelle, comme on dit. Évidemment, on est sur quelque chose d'absolument magnifique, graphiquement, en tout cas, classique dans ce que l'on connaît de Midam en particulier. Donc, Game Over, tome 24. De toute façon, ça se lit sans déplaisir et vraiment, c'est pour ceux qui font la collection, je pense qu'on les a tous et qu'on ne va pas déroger à la règle d'acheter le prochain parce que du coup, on aime ça, les nouveautés. Après, moi, ce qui me saoule un petit peu, mais ça, c'est pour les lecteurs un petit peu moins assidus, c'est peut-être les best-of où là, on retrouve juste des planches des albums que l'on a déjà lus. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Là, on est sur donc, du Game Over, tome 24 aux éditions Dupuis. École au monde miroir, le tome 13, s'appelle Les Chimères de Venise. C'est Christophe Arleston au scénario, Alessandro Barbucci au dessin. Et c'est C'est chez Soleil, dans la collection Fantastique, évidemment. Vous rappelez que Echo, c'est un monde miroir, donc c'est-à-dire que l'on est dans un monde qui nous paraît être le monde, dans lequel on vit, mais chaque ville est différente un petit peu, même si on retrouve les mêmes villes. Donc là, on va être à Venise et on retrouve à chaque fois des caractéristiques de la ville de Venise. Et on va suivre Fourmi. Fourmi, elle a une particularité, c'est qu'elle va récupérer les âmes de personnes défuntes. Et lorsqu'elle va prendre leurs caractéristiques donc mentales, et elle va vivre leur aventure, une aventure qui à chaque fois va être a pour but de rendre la liberté un petit peu à l'âme de la personne décédée sur place, parce que du coup il y a eu quelque chose, une quête, une mission qui n'a pas été finalisée. Donc c'est toujours très positif la plupart du temps, et elle va changer. En changeant sa coiffure et en changeant son caractère, on va voir que l'âme prend possession un petit peu de Fourmi et qu'elle va essayer de suivre comme ça les problématiques, donc pour pouvoir faire échapper un petit peu l'âme qui va s'en échapper. Là, le problème, c'est que elle va de nouveau être envahie par une personnalité. Mais cette personnalité, elle veut détruire la ville. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment la problématique. C'est que là, est-ce qu'on va aller aller jusqu'au bout de la mission, jusqu'à aller détruire la ville pour pouvoir rendre sa liberté à l'âme qui a été prise par Fourmi, et donc retrouver la Fourmi que l'on connaît. C'est ce que va nous expliquer Sigisbert, qui est un Leprechaun qui suit depuis le début Fourmi. Il y a tout un univers où c'est justement ces petits personnages, un petit peu des petites moufettes, un petit peu comme ça, qui suivent tout ça et qui dirigent un petit peu tout ça par l'arrière. Et on essaye de comprendre, il nous explique un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Et on va même retrouver... Donc Sigisbert va même retrouver et il va demander de l'aide à un de ses amoureux perdus qui s'appelle Clétopharnèse, qui a beaucoup beaucoup de similitudes avec Corto Maltese, et vous allez comprendre pourquoi. Et puis même le personnage humain qui suit un petit peu ce Clétopharnèse ressemble beaucoup à Hugo Pratt. Donc un gros hommage évidemment, mais alors le dessin de Alessandro Barbucci est toujours aussi beau et bon, c'est impressionnant, la couve elle est magnifique, vraiment avec plein de mouvements et une fourmi qui n'a pas peur parce que justement elle sait qu'elle c'est elle qui dirige un petit peu tout le côté négatif de ce qui va être l'attaque de Venise, assez impressionnant. Après le scénario, voilà, c'est original parce que du coup, pour une fois, c'est quelque chose de négatif que doit faire Fourmi, alors que d'habitude, c'est plutôt positif. Et là, ça change un petit peu et c'est plutôt agréable de voir ça. Et comment vont s'en sortir les personnages dirigés par Christophe Arleston, évidemment. Echo, le monde miroir, tome 13. Moi, j'adore cette série et je trouve qu'elle est superbement bien menée. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Comme le tome 6 de Ciseaux. Ciseaux, Mercato Show, c'est de Haré, c'est aux éditions Kenes. Le tome 6 commence la deuxième cycle, va-t-on dire, parce que Ciseaux a gagné la coupe des continents, la coupe des continents. C'est un joueur de foot, Ciseaux, c'est un chat qui est devenu le meilleur joueur au monde quasiment, parce qu'en gagnant cette coupe, il s'est fait en plus, il a encore fait une renommée énorme, parce qu'il a été le meilleur joueur de cette coupe des nations, j'allais dire à chaque fois, je dis des nations, mais c'est des continents, voilà. Et ils ont là de nouveau, ils arrivent bientôt en Super Euroleague. Il va devoir choisir un nouveau club. Tout le monde veut de lui, quasiment. Il y en a un qui le veut et qui va lui donner énormément d'argent, mais peut-être que ce n'est pas son club de cœur. Voilà, il y a plusieurs choses où il va devoir réfléchir à savoir pourquoi il y va, comment il y va. Et justement, bah, dans ce sixième tome, là, on est sur une transition entre la fin de la compétition qui vient de s'arrêter, le début de la Super Euro League. Et il va y avoir donc cette transition de vacances, mais où il va y avoir un tournoi quand même qui va se faire. Et Ciseau va essayer donc de, non pas de briller, mais surtout de retrouver ses amis, retrouver son naturel, retrouver l'envie de jouer, la simplicité aussi qui le caractérise habituellement. Et donc du coup, ben, ce Ciseau tome 6 nous permet une transition entre les deux, entre deux cycles. Et en même temps, de retrouver tous les personnages que l'on a déjà vus et le dessin de Harry qui est impressionnant de beauté. Moi, je trouve absolument magnifique et je trouve que même les gestes sportifs, etc., sont vraiment très bien faits, très bien exécutés, très bien dessinés. Je trouve, j'adore cette série-là. Les couleurs, en plus, très chatoyantes, très vives, apportent énormément. C'est vraiment un vrai cartoon que l'on a envie de suivre, qu'on aimerait bien voir en plus en dessin animé. Je pense que ça marcherait plutôt pas mal. Ciseau tome 6 de Harry, vraiment un gros coup de cœur que moi j'adore depuis longtemps et que je veux continuer à aimer. Bah, du coup, je vous le conseille grandement. Je vous le conseille grandement. Et puis, bah, on va finir avec deux, trois encore albums. Je suis en train de regarder un petit peu mes notes pour voir ce que je vous présente. Ben tiens, Gendarme. Les Gendarmes, tome 18, Le poids des mots. C'est sorti donc aux éditions Bambou, évidemment. C'est le retour des Gendarmes. Ça fait longtemps, depuis 1998 que ça existe. Mais c'était une grosse pause même à certains moments. Et là, du coup, ça revient avec Cazeneuve, Sulpice qui sont au scénario. Et Jean Fèvre, qui est toujours là un petit peu, mais qui était, lui, le dessinateur de base de cette série. Jean Fèvre et Sulpice à la base. Et puis, c'est Bast qui a repris le dessin. Les gendarmes, vous avez bien compris, c'est une bande de gendarmes dans les métiers comme les profs, etc. C'était une première série, je crois que c'était même la première série de coups dans la collection de chez Bambou, Bambou Métier, comme ça. Et du coup, ce sont des crétins un petit peu. On joue beaucoup sur la bêtise des gendarmes. On joue beaucoup sur la naïveté aussi de certains. La naïveté de la jeunesse en particulier. Là, ils vont dans une course de chevaux où il va y avoir apparemment quelque chose qui va mal se passer. En tout cas, pas qui va mal se passer, mais qui va se fomenter, il va y avoir des trafics, des choses comme ça. Donc ils vont faire des enquêtes et ils prennent évidemment comme des imbéciles, les jockeys pour des enfants, voilà, des choses comme ça. C'est un petit peu crétin, c'est drôle et ça donne envie quand même de le lire. Et Bast, je trouve, a très bien repris le dessin parce qu'on retrouve le trait un petit peu qu'avait Jean Fèvre pour ces personnages différents. Et en 2026, il va y avoir le film Les Gendarmes avec Arnaud Ducret, Fred Testo, Alice David et puis d'autres, Julien Arrouty par exemple, dans ce film. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on relance la série avec des gendarmes avec ce tome 18, en sachant que c'est très bien de relancer plutôt que de ressortir juste les premiers tomes. Voilà, on relance la série avec un nouveau tome, le 18e, aux éditions Bambou. Et on continue évidemment le 20e tome des Sisters avec Christophe Cazeneuve au scénario, William au dessin, le papa des vrais Sisters. Le 20e tome s'appelle « Moi d'abord ». Et on retrouve toujours les deux jeunes filles, Marine, la plus jeune du duo qui, cette fois-ci, doit aider sa grande sœur Wendy à aller mieux parce qu'elle a un petit peu le moral dans les chaussettes. Et donc, du coup, les deux vont encore, surtout Marine, va surtout être très, très ouverte et folle par rapport à sa grande sœur. Et elle va nous inventer encore plein, plein de choses à découvrir. Alors, le dessin de William est toujours aussi parfait. C'est toujours aussi bon. Christophe Cazeneuve arrive encore à renouveler les choses. Là, la dernière fois, il y avait eu un déménagement. Là, cette fois-ci, il y a un petit peu une baisse de morale de la grande sœur. Et donc, du coup, la petite sœur qui est une, une étoile, voilà, quelque chose qui brille et qui fait donne du plaisir et avec son tempérament un peu foufou et en même temps qui est assez qu'on n'arrive pas à suivre. C'est une tornade complète. Donc voilà le tome 20 des Sisters déjà qui fonctionne toujours aussi bien. Évidemment, je pense que les passionnés de cette série vont encore apprécier. Vraiment, c'est un classique. Un vrai classique de la bande dessinée. Allez, c'est là-dessus qu'on va finir. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques sur notre site, notre site internet, non, sur la page Facebook de Bulle en Stock. Donc, ça s'appelle Bulle en Stock avec un S. Ou alors, sur ma page Facebook à moi, Steven Bescon. Vous avez la possibilité donc de vraiment découvrir, de revoir un petit peu tout ce qui a été dit, de quoi j'ai parlé. On a aussi l'ensemble des chroniques, des anciennes chroniques que vous allez pouvoir retrouver et des anciennes émissions sur radiograndparis.fr. Vous allez avoir plein de podcasts sur cette chaîne. Vous pouvez aussi retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, enfin un petit peu partout, sur toutes les plateformes de streaming la plupart du temps. Bulle en Stock, ça existe. Donc voilà, c'était Bulle en Stock Express spécial BD. Merci à Nicolas Godin pour le prolongement de l'émission vers des réseaux et en particulier donc radiograndparis.fr. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite. N'hésitez pas à laisser un petit message si vous le voulez. Allez, on se dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.